Chapitre 4. Le lendemain, Jean Melchior ne se leva pas. Toute la nuit, il avait eu la fièvre. Depuis longtemps déjà, il buvait jusqu'à 10 verres d'eau avant de se coucher. Annie avait quitté trop jeune sa famille pour s'être familiarisée avec les maladies. Cette soif anormale ne l'avait jamais inquiété. Ce matin-là, pourtant, elle appela un médecin. Dans l'après-midi, M. Eslinger fut radiographié. Il avait plusieurs lésions aux poumons. En outre, il était diabétique. Il fallait partir le plus vite possible pour Davos. Jean-Noël, selon le désir de son père, fut confié à une famille parisienne que la vie de M. et Mme Eslinger avait longtemps intriguée. L'appartement fut fermé, sauf une chambre et la cuisine, pour que Catherine, dont on n'avait pas eu le temps de s'occuper, eût un abri. Annie s'était toujours entourée de gens quelconques, mais dont l'admiration lui épargnait les petits ennuis de la vie courante. En cette épreuve, M. Saglioni montra que le dévouement respectueux qu'il avait témoigné jusqu'alors à Mme Eslinger était sincère. M. Saglioni était un vieux niçois, fils de commerçant, commerçant lui-même. Il faisait un peu de politique, avait été conseiller municipal et était encore président d'un groupement touristique. Le soir même, elle courut chez le brave homme. Dans son affolement, elle lui raconta non seulement le drame, mais tous les soucis qui l'accablaient. Une telle marque de confiance décupla la serviabilité de M. Saglioni. Il la réconforta. « Laissez-moi faire, lui dit-il à plusieurs reprises. Il lui proposa même de s'enquérir auprès d'un notaire et de ses amis du moyen le plus efficace de réduire au silence Mme Mercier. Mais Mme Eslinger calma son zèle, désireuse qu'elle était en un moment aussi pénible, de ne pas entamer de lutte avec une femme comme Ernestine. Elle chargea M. Saglioni de remettre chaque mois à Mme Mercier une petite somme, de la prévenir de l'état de Jean Melchior. Elle lui recommanda de ne dévoiler, sous aucun prétexte, sa nouvelle adresse. Elle le pria de se rendre de temps en temps, à ses moments perdus, avenue Félix Faure, pour s'assurer que tout y était en ordre, que Catherine ne manquait de rien, et, à cet effet, elle lui remit une clé de l'appartement. Elle lui donna également le nom de la famille à laquelle Jean-Noël avait été confié, afin qu'il pût prévenir le jeune homme au cas où il arriverait en malheur. Elle lui parla du bail qu'elle avait eu la légèreté de signer quelques jours auparavant, lui demanda de faire tout ce qu'il pourrait pour en obtenir la résiliation. En un mot, elle se rapportait entièrement à lui de tout, même des démarches immédiates à la préfecture et au consulat suisse. Le surlendemain, accompagnée d'une infirmière, elle conduisait Jean Melchior à Davos. Monsieur et Madame Montigny, leur fille dont le mari, Adrien Bérard, était mobilisé, et le fils que celui-ci avait eu d'une première femme morte en couche, ami de lycée de Jean-Noël et par qui, justement, les Eslinger avaient fait connaissance de cette famille, habitaient depuis 3 mois une jolie propriété, non loin de l'avenue Félix Faure. Ils avaient quitté Paris à cause des bombardements aériens. En quête de relations, dès leur arrivée à Nice, Annie et Jean Melchior, à qui ils avaient trouvé le genre parisien, comme ils disaient, leur avaient été vite sympathiques. N'était-il pas agréable de rencontrer en province des gens ayant les idées larges, avec lesquels on pouvait causer et avec lesquels on avait tant de goûts communs? Tout leur était prétexte à inviter les Eslinger, Annie de préférence. Aussi, quand elle avait été les voir sur la prière de Jean Melchior pour leur demander d'héberger Jean-Noël, acceptèrent-ils avec beaucoup de bonne grâce. Un mois plus tard, Jean-Noël, que personne n'avait averti de la gravité du mal dont son père était atteint, que les Montigny laissaient agir à sa guise afin de ne pas être en reste de libéralisme avec M. et Mme Eslinger, et qui en profitait pour ne pas retourner au lycée, bien qu'il fût à la veille de se présenter aux examens du baccalauréat, parvint à retrouver Gisèle. Il apprit alors avec étonnement que jusqu'à sa maladie, M. Eslinger avait revu presque quotidiennement cette jeune femme, qu'il l'avait prise sous sa protection, qu'il l'avait fait inscrire dans un bureau de bienfaisance, que grâce à lui, elle avait obtenu la situation assez inattendue de dame de compagnie auprès d'une vieille Anglaise. Jean-Noël crut d'abord que tout cela était une fable. Mais Gisèle lui donna de telles précisions, notamment sur sa famille à lui, qu'il n'en douta bientôt plus. que son père eût pu fréquenter une femme comme Gisèle, à l'insu d'Annie nécessairement, l'emplit de honte. Il reconnaissait bien à cela cette absence de dignité dont il souffrait autant que de la vulgarité de sa mère. Malgré son humiliation, il n'en renoua pas moins avec Gisèle. Un jour, celle-ci lui demanda de la conduire avenue Félix Faure. Elle était curieuse de voir où M. Ettlinger et Jean-Noël vivaient. Il hésita. Les allusions que faisait cette jeune femme sur son père le blessaient et il se rendait compte qu'une visite au domicile de ses parents en ferait naître d'autres. Mais Gisèle insista tellement qu'il céda. Catherine leur ouvrit. L'appartement était fermé et les clés avaient été rangées par Annie dans un secrétaire qui se trouvait dans l'entrée. Jean-Noël parvint à l'ouvrir. Pendant une demi-heure, il promena Gisèle dans l'appartement obscur sans comprendre l'intérêt qu'elle pouvait trouver à passer d'une pièce à l'autre. Finalement, au grand soulagement de Jean-Noël, elle manifesta le désir de partir. Au même moment, la sonnette, qui reliait l'appartement au tableau placé sous la voûte de la porte cochère, retentit. Un instant, il perdit la tête. Si c'était son père ou Annie? Mais Gisèle, très maîtresse d'elle-même, avait déjà ouvert la porte d'entrée. « Je descends, » dit-elle. « De cette façon, on ne saura pas que nous étions ensemble. » Une minute après, M. Saglioni, qui avait croisé la jeune femme dans l'escalier, mais qui ne se doutait de rien, sonnait à l'appartement. Jean-Noël, qui, dans l'intervalle, avait refermé toutes les portes et remis les clés dans le secrétaire, lui ouvrit. M. Saglioni fut surpris par la présence du jeune homme, mais il ne fit aucun rapprochement entre cette coïncidence et la rencontre qu'il venait de faire. « J'avais besoin d'un livre, » dit Jean-Noël en faisant signe à Catherine de le soutenir, bien qu'il n'eût jamais échangé plus de deux paroles de suite avec elle. N'appartenait-elle pas à la famille de son père? Pour cette raison, ne devait-elle pas faire ce qu'on attendait d'elle? Mais dès que Jean-Noël fut parti, M. Saglioni interrogea Catherine. Elle lui raconta ce qui s'était passé. La jeune femme qu'il avait croisée dans l'escalier lui revint à l'esprit. Un instant, il songea à prévenir Annie, mais n'avait-elle pas assez de soucis? Il rendit pourtant visite à M. Montigny et lui fit part de ce que le hasard lui avait fait apprendre. M. Montigny venait justement de recevoir une lettre d'Annie. Elle lui écrivait que la fin était proche et, à cause de sa douleur sans doute, omettait de parler de Jean-Noël. « Pauvre femme !» dit M. Saglioni lorsqu'il eut parcouru cette lettre, sous un ton qui sous-entendait que Mme Ettlinger avait encore bien d'autres raisons d'être malheureuse. À la suite de cette visite, tout le monde se montra beaucoup plus réservé avec Jean-Noël. Celui-ci, qui tremblait qu'il ne vînt aux oreilles des Montigny, qu'Annie n'était pas sa mère, ne douta plus que Mme Mercier n'eût mis à exécution la menace qu'elle lui avait faite deux jours plus tôt. Elle était venue l'attendre à la sortie du lycée pour lui demander l'adresse de Jean Melchior, adresse que M. Saglioni lui avait déjà refusée, ce qui avait déterminé chez elle un accès de colère tel qu'elle avait été jusqu'à dire que Jean Melchior se portait comme un charme, que cette maladie n'était qu'un prétexte pour se débarrasser d'elle. Depuis, il craignait que Mme Mercier ne lui en sût aucun gré et qu'elle ne profitât de l'absence de la seule personne qui eût pu la retenir, M. Ettlinger, pour crier partout qu'elle était sa mère. Aussi ne songea-t-il pas un instant que le changement des Montigny à son égard pût avoir une autre cause. La même gêne que celle qui s'était emparée de lui chez M. Stevenson le paralysait. Les repas étaient un supplice. Il croyait surprendre des sourires méprisants. Du jour au lendemain, il n'adressa plus la parole au jeune Bérard, son camarade de lycée. Mais pendant qu'il ne souffrait que dans sa vanité, son père s'éteignait doucement. Annie ne le quittait plus. Parfois, il recouvrait la lucidité. La première chose qu'il demandait alors, c'était des nouvelles de Jean-Noël. Elle lui répondait qu'il travaillait beaucoup, que tout le monde était fier de lui. Un soir, comme elle lui faisait l'éloge du jeune homme, sachant que c'était ce qui lui faisait le plus plaisir, il l'interrompit. En se reprenant, il lui raconta la liaison qu'avait eue son fils avec Gisèle, puis il la supplia, quand il ne serait plus, de veiller surtout à ce que Jean-Noël n'eût pas de mauvaise fréquentation. Cette histoire surprit Annie au point qu'elle ne se rendit pas compte qu'un certain temps s'était écoulé depuis. Quand elle s'en aperçut peu après, elle dut quitter son mari pour pleurer, non qu'elle fût peinée de ceux qui lui avaient caché la mauvaise conduite de Jean-Noël, mais parce que le contraste de l'importance que celle-ci aurait eue à ses yeux quelques mois plus tôt, avec le peu de choses qu'elle était aujourd'hui en face de la mort, lui était apparu. À partir de ce jour, comme si, pour être sensible dans sa douleur, les ennuis devaient être plus nombreux, Madame Ettlinger reçut d'abord une lettre de M. Saglioni la préparant au désagrément qu'il attendait à son retour, puis deux autres lettres, l'une assez froide des Montigny, l'autre d'Ernestine Mercier. La mère de Jean-Noël s'attendrissait hypocritement sur l'amour que lui portait son fils. Ne lui avait-il pas donné l'adresse dont elle avait besoin? Elle terminait par l'annonce de son arrivée, M. Ettlinger ayant, disait-elle, autant besoin de ses soins que de ceux d'une intrigante. Cette dernière menace n'épouvanta Annie que quelques heures. Le soir même, qui était celui de l'équinoxe d'automne, cependant que la tempête soufflait sur la montagne, Jean Melchior rendit le dernier soupir. Quelques jours plus tard, M. Saglioni, les Montigny, Mme Bérard et Jean-Noël s'en allèrent attendre Mme Ettlinger à la gare. Sur le quai, tout le monde parla de celle qui traversait une si rude épreuve. M. Saglioni se laissa même aller à de l'attendrissement. Il observa, entièrement approuvé par les Montigny, dont les sentiments pour Annie ne justifiaient pas qu'ils se fussent dérangés en si grand nombre, qu'il valait peut-être mieux pour Mme Ettlinger que son mari eût quitté ce monde. Il n'était pas de son milieu. On ne pouvait nier, il est vrai, que tous deux avaient formé un ménage uni, mais cette union n'était-elle pas due au sacrifice qu'Annie seule avait fait? À présent, on pouvait prévoir que, lorsque sa douleur se serait calmée, elle mènerait une existence plus conforme à l'éducation qu'elle avait reçue. Il était difficile de deviner ce qu'elle déciderait, mais on devait l'encourager à rentrer dans sa famille, malgré la peine que son départ causerait à tous. La guerre finirait quand même un jour. Une vie nouvelle commencerait alors pour elle. Qui sait, peut-être plus tard reviendrait-elle à Nice. Le train entra en gare. Espacés sur le quai ainsi que des sentinelles, les membres du petit groupe guettèrent chacun son wagon. Quand Annie parut, vêtue de noir, amaigrie, mais plus belle encore, ce fut à M. Saglioni qu'échut le bonheur de l'accueillir le premier. « Comment allez-vous, cher M. Saglioni? Comment vont les choses ici » demanda-t-elle tout de suite, de manière à montrer qu'elle était maîtresse d'elle-même, cela afin qu'on ne s'immisçât pas dans sa douleur. M. Saglioni la conduisit à venue Félix Faure, cependant que Jean-Noël, malgré les efforts qu'il avait faits pour rester avec sa belle-mère, dut s'en retourner avec les Montigny. Ce fut seulement un mois après qu'Annie, en faisant ses préparatifs de départ, s'aperçut que différents objets auxquels elle tenait avaient disparu. Elle appela M. Saglioni. Il se souvint alors non seulement de la rencontre qu'il avait faite avenue Félix Faure, mais un fait qui s'était produit quelques jours après et auquel il n'avait pas prêté attention. Au cours d'une visite à un hôtelier de ses amis, il avait remarqué, traversant le hall, cette même jeune femme dont Catherine lui avait parlé. Il avait demandé qui elle était. « C'est la femme de chambre d'une de nos clientes », lui avait-on répondu. « Justement, cela me fait penser que cette cliente s'est plainte de ne pouvoir retrouver une de ses bagues. » M. Saglioni fit aussitôt un rapprochement entre cette dernière disparition et celle que lui avait signalée Mme Ettlinger. Il retourna à l'hôtel où il apprit que c'était grâce à un certificat de M. Ettlinger que Gisèle Orlandini avait été engagée. Tout lui parut alors très clair. Cette Gisèle avait été au service de M. et Mme Ettlinger. C'était à ce moment qu'elle s'était approprié les objets qu'on ne retrouvait plus. D'autre part, il était presque certain qu'elle avait eu avec Jean-Noël des rapports différents de ceux qu'elle eût dû avoir. Quand il revit Annie, il la mit au courant de ses investigations. Madame Ettlinger, pour cause, ne se souvint pas d'avoir eu à son service une domestique du nom de Gisèle. Il précisa qu'elle était brune, grande, très jolie, qu'il n'y avait aucun doute sur elle, puisqu'elle avait un certificat signé de M. Ettlinger. Annie pâlit. L'aventure de Jean-Noël que lui avait raconté son mari lui revint à l'esprit. Quelque chose s'était passé qu'elle ne voulait pas approfondir. Elle répondit qu'en effet, elle se souvenait de Gisèle, que celle-ci était justement d'une très grande honnêteté et que d'ailleurs, elle avait retrouvé les objets disparus. Pour changer la conversation, elle demanda à M. Saglioni s'il avait vu le propriétaire du logement qu'elle avait loué. M. Saglioni, qui s'employait à cacher à Mme Ettlinger tout ce qui pouvait la contrarier, dut lui avouer que ce propriétaire se refusait à entendre parler de résiliation. « Cela n'a pas d'importance, » dit Annie qui avait hâte d'être seule. Seulement lorsqu'elle eut mis de l'ordre dans sa situation, elle consentit à ce que son beau-fils revînt habiter avenue Félix-Faure. Depuis qu'elle avait appris qu'il avait une vie secrète d'homme, depuis surtout qu'elle avait eu la confirmation par M. Saglioni, il lui était apparu qu'elle n'avait pas l'autorité nécessaire pour le guider et qu'il valait mieux le laisser où il était, ce qui, par parenthèse, était loin d'enchanter les Montigny qui commençaient à craindre, comme l'avait fait M. Stevenson pour ses pensionnaires, que Jean-Noël ne fût un exemple déplorable pour leur petit-fils. Annie ne tarda pas à regretter d'avoir repris Jean-Noël si vite. Avant de quitter Nice, elle tenait absolument à ce que tous les litiges en suspens fussent réglés, à ne rien laisser derrière elle qui pût lui être reproché, à la fois par souci de ne pas être ingrate vis-à-vis de ceux qui l'avaient entourée de leur bonté et pour éviter que, dans l'avenir, elle ne se retrouvât au milieu d'un pareil désordre. M. Saglioni l'aidait de toutes ses forces dans cette tâche. Il essayait d'attendrir ceux qui avaient une créance quelconque à faire valoir en leur peignant une Mme Ettlinger, victime toute sa vie de sa générosité. Aussi, comme à chaque instant avaient surgi des complications dont elle s'exagérait l'importance au point de reculer son départ, avait-elle pensé qu'elle aurait très bien pu laisser Jean-Noël chez les Montigny, ce qui lui aurait épargné les propos ironiques que son beau-fils ne manquait jamais de tenir sur le dévouement de M. Saglioni. Car il ne pouvait supporter ce monsieur toujours essoufflé. Il s'imaginait que c'était à cause de lui qu'Annie n'écoutait pas ses conseils, ni ne voulait de cette protection dont il eût été si fier, si heureux de l'entourer. Enfin, en janvier 1916, après bien des ennuis que 10 années d'inaptitude à se diriger avaient fait naître, Annie, accompagnée de Jean-Noël, partit pour Paris.